5 minutes d'arrêt, c'est une analyse de l'actualité jurisprudentielle proposée et préparée par les rédactions de Lefèvre Dalloz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Je suis Angeline Doudou et aujourd'hui je reçois Sylvia Fernandez, rédactrice à la rédaction civile chez Lefèvre Dalloz. Bonjour Sylvia.
Bonjour Angeline.
Alors Sylvia, ce mois-ci, tu as choisi de nous présenter trois décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation. Sylvia, on commence par un premier arrêt où il est question de savoir si un curateur peut valablement conclure seul un mandat au nom d'un majeur sous curatelle renforcée. Est-ce que tu peux nous résumer quels étaient les faits en l'espèce ?
Alors, dans cette affaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné dans le cadre d'une curatelle renforcée avait conclu seul, au nom du majeur protégé, un mandat portant sur le recrutement d'auxiliaires de vie. Au décès du majeur, sa fille avait contesté le coût de cette prise en charge, selon elle excessif, et engagé la responsabilité du curateur pour avoir dépassé ses pouvoirs. La Cour d'appel a rejeté sa demande d'indemnisation en retenant, notamment, que le curateur n'avait pas commis de faute en concluant seul le mandat. La Cour de cassation censure la Cour d'appel sur ce point. Elle rappelle que dans le cadre d'une curatelle renforcée, les pouvoirs de représentation du curateur sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Pour le reste, le curateur est muni de simples pouvoirs d'assistance, de sorte qu'il ne pouvait pas conclure seul le mandat en cause.
Est-ce qu'on peut en déduire que la requérante, c'est-à-dire la fille du défunt, a obtenu gain de cause ?
En aucun cas, puisque les conditions de la responsabilité civile du curateur n'étaient pas réunies. En effet, la Cour d'appel avait relevé l'absence d'un préjudice en lien avec la faute invoquée. Pourquoi ? D'une part, la décision de recruter des auxiliaires de vie était indispensable au maintien des époux à domicile, conformément à leur volonté. D'autre part, le coût global de l'intervention des auxiliaires de vie n'avait rien eu d'exorbitant au regard de la durée de la prise en charge. La Cour de cassation a donc approuvé le rejet de la demande d'indemnisation.
Passons maintenant à la question relative à l'action en réduction des libéralités. Peut-être pour nos auditeurs qui ne les auraient pas en tête, est-ce que tu peux nous rappeler les principes ?
Tout à fait, Angeline. L'action en réduction des libéralités qui empiète sur la réserve héréditaire est naturellement soumise à un délai de prescription, au-delà duquel elle ne peut plus être exercée. L'article 921 du Code civil énonce ainsi que, je cite, « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. En l'espèce, devant la Cour de cassation, un héritier prétend que ce texte doit être interprété en ce sens que, dans tous les cas, celui qui demande la réduction doit agir dans les 2 ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve.
Et quelle est la réponse de la Cour de cassation ?
Eh bien, la haute juridiction n'est pas de cet avis. Elle juge que pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les 5 ans à compter du décès ou au-delà, jusqu'à 10 ans après le décès, à condition d'être exercée dans les 2 ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Autrement dit, le délai de 2 ans prend la suite du délai de 5 ans. Il ne s'y substitue pas dans le cas où il serait établi que l'héritier réservataire avait connaissance d'une atteinte à sa réserve. On peut rappeler qu'avant la réforme des successions et des libéralités de 2006, le délai de prescription de l'action en réduction était de 30 ans. Un tel délai était critiqué en raison de l'insécurité des partages successoraux en résultant.
Alors Sylvia, dernier arrêt. On va s'intéresser à une décision rendue à propos d'un régime matrimonial de communauté universelle qui illustre la distinction à opérer entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette.
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, y compris personnelles. Par conséquent, si un époux souscrit seul un emprunt, cette dette incombe définitivement à la communauté. Peu importe que cet emprunt ait été souscrit avant même un changement de régime. Peu importe aussi que le consentement du conjoint n'ait pas été donné. Telle est la règle qui s'applique pour un régime de communauté universelle lorsqu'il s'agit de déterminer, dans les rapports entre époux, à la liquidation du régime, le patrimoine qui doit supporter la charge définitive de la dette et donc l'existence éventuelle d'un droit à récompense. C'est la question de la contribution à la dette.
Et qu'en est-il dans les relations avec les tiers ? Est-ce que c'est la même chose ?
Eh bien non, c'est différent. On s'intéresse alors à l'obligation à la dette qui définit les biens sur lesquels un créancier peut exercer son droit de poursuite. En principe, le paiement de toutes les dettes dont chaque époux est tenu peut toujours être poursuivi sur les biens communs, avec toutefois une exception notable qui concerne les emprunts et cautionnements. L'article 1415 du Code civil restreint le gage des créanciers aux biens propres et aux revenus du débiteur, sauf consentement express de l'autre conjoint. Dans cette affaire, l'épouse requérante, qui n'avait pas souscrit l'emprunt ni même donné son accord, pensait pouvoir se prévaloir de cette exception. Mais il n'en était rien, puisque les juges n'avaient été saisis d'aucune demande de la banque contre l'épouse. La question de l'obligation à la dette ne se posait pas.
Merci beaucoup à tous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille.